تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة تطبطبطبطبيني تطبطمصي تيني زماني الغايب عالحياة الفرحة. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock'n Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire, musical et désormais plus largement culturel. Nous avons rendez-vous ensemble toutes les semaines. Avec vous, je partage mes coups de cœur littéraires, BD, romans et nouvelles, albums pour la jeunesse aussi. Pour ce faire, je chronique, j'interview les auteurs quand cela est possible. Et puis, et tout est là, j'agrémente mes propos par la playlist, la mienne, capable en toute subjectivité de convoquer à nouveau toutes les émotions vécues pendant la lecture. Quel rythme pour quel récit, quelle mélodie pour quel personnage, quelle voix pour quel auteur, il est là, le principe de Rock'n Page. Bon, et puis parce que moi ce que j'aime dans la vie par-dessus tout ce sont les autres, j'ai décidé cette année de m'entourer pour vous donner plus de plaisir encore. Une fois par mois, vous avez désormais rendez-vous avec Mademoiselle Amo pour son mois à elle. Une autre fois, c'est avec Catherine que vous avez rendez-vous pour les bons plans cinéma. Et enfin, et c'est le cas aujourd'hui, je suis accompagnée par Bibio Manu, le super-héros masqué de la littérature policière et science-fiction. Et avant de lui laisser la parole à Bibio Manu, qui a, je crois, en plus un invité de marque à vous présenter en la personne de Joseph Incardona, moi, je vais vous causer d'une bande dessinée que j'ai lue et qui m'a laissé littéralement sonner dans les cordes. Pas tant par son graphisme, sur lequel donc je ne m'appesantirai pas, mais plutôt par son titre, par son propos. Son titre, Little Tulip, ses auteurs, Book et Charine, que l'on ne présente plus. Alors voilà comment je me suis sentie en refermant cette bande dessinée. Vous l'aurez reconnu, Sons et leur très coup de poing 2020, pour vous dire comment je me sentais en refermant Little Tulip, la bande dessinée de Book et Charin. Alors que je vous explique comment fonctionnent ces deux-là. Jérôme Charin est un écrivain new-yorkais et François Book, lui, un auteur de bande dessinée français. Ils ont juste attendu 20 piges pour sortir une nouvelle BD, après les deux titres qui avaient déjà été de réelles et grandes réussites, de vrais succès en librairie aussi, à savoir La Femme du Magicien et Bouche du Diable. Voilà, une fois le contexte posé, nous pouvons entrer dans l'univers de Little Tulip, la petite fleur, où leur personnage, Paul, donc, qui est né et a grandi, cela on ne le choisit pas, on le sait, sur le terrain assez toxique, s'il en est, et c'est un euphémisme, des goulags staliniens, et donc les mafias qui vont avec. Avant de s'épanouir, Paul, donc, dans le New York des années 70, en tant que tatoueur. À 40 ans, on le retrouve donc, on le rencontre, assis sur une certaine notoriété, et on comprend très vite qu'il travaille aussi avec la police via ses dessins. Enfin, il est en somme tellement doué que lorsqu'il signe des portraits robots, la police peut être quasiment assurée d'une réussite à la clé. Sauf que, et l'intrigue va se nouer là-dessus, un mystérieux tueur en série échappera à sa clairvoyance. Et ce psychopathe-là va se charger de mettre sous nos yeux inquiets Paul face à ses propres fantômes, lui rappelant, ironie du sort, que le passé est en somme comme un tatouage sacrément bien réalisé. Ça, c'était Soap and Skin et les tripes à l'extérieur pour vous dire à quel point la bande dessinée Little Tulip, signée par Bouc et Charin pour les éditions Le Lombard, est un thriller fin, lourd et à quel point il sait par son récit et l'univers qu'il campe convoquer nos angoisses les plus profondément ancrées. Vous l'aurez compris, à présent, cette bande dessinée-là, au-delà de la petite histoire avec en son sein la grande histoire, New York dans les années 70, les goulags comme Racine aussi, au-delà de l'enquête haletante, des personnages hauts en couleur, parle en somme de plusieurs choses, mais du dessin en premier lieu. C'est avec lui et par lui, et lorsque je me suis documenté sur la démarche de son auteur, il déclare avoir été totalement dans ce désir pour faire naître Little Tulip. Porté par ce même désir de lire des dessins, il dit avoir même souhaité faire un travail autour et à partir des dessins sauvés, archivés, des rescapés des camps de la mort. Tiens donc, un dessinateur fasciné par le dessin qui dirait l'enfermement, la peur, la survie. Et dans cette démarche-là, Book comprend et constate que rien de tel n'existe autour des goulags, si ce n'est les récits de Solzhenitsyn et de Chalamov. Le défi lui suffit, il se jette aux côtés au scénario Jérôme Charin. Il nous offre donc et enfin cette bande dessinée au goût amer qui sentirait tout à la fois le sang et la sueur, pour le moins viril à souhait. Il fonde le récit et pose son suspense au-delà de l'enquête sur les incessants allers-retours spatio-temporels entre le New York des années 70 et le goulag des années 50. Il nous plante face au fait que le dessin, puis le tatouage, portent en eux, par essence, des secrets trop pesants pour nos âmes fragiles, capables d'affaiblir les plus gros durs à cuire, les cœurs pas tendres. Le scénario est dense, l'ambiance pesante, ça c'est pour la plume de Charin, et il faut y ajouter la magie du crayon de Book qui se fera un point d'honneur de sauter par-dessus la dimension misérabiliste qui aurait pu naître avec le terreau goulag et barbarie. Il saura même déposer une touche de symbolisme magique via le tatouage. Bref, moi, je m'arrête là. À vous d'aller découvrir le reste. En tout cas, écoutez cela. Et si cela peut vous donner une piste de plus à suivre pour vous conduire jusqu'à Little Tulip, la bande dessinée signée Charin et Book, alors moi, je dirais victoire. Nous venons de partager une belle découverte. Ce petit Santigold envoyé derrière vos oreilles, vous me voyez tout à fait aux anges de céder ma place à Bibliomanie pour sa chronique à la frontière des genres.
Aujourd'hui, enfilez vos bermudas, vos tongs, mettez vos lunettes de soleil, prenez votre crème solaire, je vais vous faire voyager. À part ça, ne vous chargez pas trop, je me coupe de tout. Enfin, non, pas vraiment moi. Le service Histoire Prenante All Inclusive est aujourd'hui assuré par Joseph Incardona qui vous emmène voyager sur une île avec Aller Simple pour No Man Island, son dernier ouvrage paru en novembre dernier aux éditions du Seuil dans leur collection Policier Seuil. Vous allez suivre la famille Jensen au grand complet, les deux parents, Paul et Iris, et leurs enfants, Lou et Stanislas, Iris ayant succombé au charme racoleur d'un spam. Le bonheur à portée de main ? Pas si sûr, car très vite, chacun prend la mesure des événements insolites qui se produisent sur l'île. Chacun les appréhende à sa façon, même lorsque le fantastique se met de la partie. L'angoisse est là lorsque le temps suspend son vol et que, petit à petit, le piège de l'île se referme sur une famille, j'allais dire, sans histoire, mais non, sur une famille déchirée en son sein par les regrets, les vicissitudes du couple, l'éveil adolescent, la fragilité du petit dernier, une famille habitée par l'envie irrépressible de ne plus avoir à décider de rien, de se laisser aller. On est donc bien loin de l'île paradisiaque tant convoitée, vendue sur écran glacé. Petit tour d'horizon avec Joseph Incardona. Joseph Incardona, bonjour et merci de vous joindre à nous à La Frontière des Genres pour parler de votre dernier livre, Aller simple pour No Man Island. Dans ce livre, justement, vous tirez le fil de nos travers, notamment en représentant les Jensen comme une famille qui ressent le besoin de lâcher prise, de combler le vide de l'existence en se laissant aux mains d'un tiers, quitte pour cela à fuir toute responsabilité. Est-ce que ce fil, vous avez eu besoin de beaucoup le tirer, Joseph Incardona ?
L'idée est partie du... Jusqu'à présent, j'ai toujours traité plutôt de personnages qui étaient un peu dans la marge, ou qui se retrouvent dans la marge, mais disons de catégories sociales plus pauvres. Et puis je me suis rendu compte finalement que les très riches vivent aussi en marge finalement. Ils vivent dans des lieux plutôt clos, ne fréquentent pas forcément les mêmes endroits que le Kidam.
Entre eux.
Et je me suis aperçu que petit à petit, en regardant autour de moi, en ayant aussi quelques occasions de rencontrer des gens qui vivaient dans ces endroits un petit peu complètement fermés, notamment en Espagne, je me suis aperçu qu'il y a une forme de marginalité aussi dans la très grande richesse. On a raison d'acheter son temps, on ne sait pas combien coûte un ticket de métro, etc. Hein. Donc, j'avais eu envie de parler et d'écrire un roman noir qui se passe, un, au soleil, et puis deux, dans une catégorie sociale, on va dire, différente de celle que je traite habituellement.
Alors,
et donc, ce fil, il est arrivé comme ça logiquement, et j'avais envie de faire un huis clos extérieur, un peu le survival, comme on appelle dans le cinéma. Et puis je me suis dit, tiens, et si c'était un endroit où j'ai, en plus il y avait une pub du Club Med qui disait « Vous le bonheur, vous l'imaginez comment ?» qui avait retiré mon attention, puis c'est parti comme ça. Et je me suis dit finalement de se retrouver dans un endroit paradisiaque où on est censé être complètement heureux.
Oui.
Est-ce qu'on peut réellement l'être finalement ?
Alors justement, vous parlez de ça, donc outre l'aspect sur le côté mercantile du tourisme débridé, moi j'ai lu vraiment votre roman comme un écho aux espoirs déçus, comme une réflexion, vous le disiez, sur la quête du bonheur. Et pour vous, est-ce que la quête du bonheur pour le bonheur, c'est selon vous, à l'image de l'île, le début d'un emprisonnement justement ?
Oui, parce que finalement, c'est un petit peu le monde aussi qu'on essaie de nous vendre, hein, ce monde absolument mercantile de consommation perpétuelle, de fuite en avant. Et justement, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de ça, il n'y a pas d'issue, on tourne en rond perpétuellement.
Oui.
Et donc, je me suis dit, tiens, est-ce que le roman noir, par excellence, se veut aussi critique sociale ? Donc, je me suis dit, c'était une façon intéressante de traiter ça dans une forme allégorique aussi, avec beaucoup de choses qui sont finalement sous couvert d'une histoire. J'en ai profité pour, comme d'habitude, mais là, sur ce thème particulier, pour essayer de faire une certaine critique d'un certain monde.
Il y a quand même un écho aussi avec le Matteo que vous avez dépeint dans Remington, quand il disait « meublé, le vide est une imposture ». Il y a un peu ça aussi chez ces personnages-là. On donne l'impression de toujours vouloir combler le vide.
Oui, surtout alors là, voilà, il y a un petit côté Madame Bovary, chez donc cette famille, on va dire, modèle, hein, père analyste financier, qui serait dans une banque. En plus, je me suis dit, pourquoi pas faire démarrer cette famille depuis Genève. La villa, les codes Porsche Cayenne, Mini Cooper pour la femme, là, quoi, tous ces codes qu'on voit, cette espèce de côté très très banal finalement. Et puis c'est surtout la femme qui est l'épouse, Iris, qui est une sorte de Madame Bovary du 21e siècle, hein, qui s'ennuie autour de sa piscine et qui est habitée par une sorte de mélancolie, de ce grand vide Et puis, alors là, voilà, je l'ai, par rapport à l'aspect féminin, ce grand vide, elle a pu le remplir avec déjà un vide physiologique presque qu'elle a ressenti dans son ventre. Elle a eu deux enfants, elle en voulait un troisième, enfin bref. Mais voilà, mais les enfants maintenant grandissent, sont pratiquement plus à la maison, en tout cas s'éloignent, et puis leur vide revient.
Eh oui.
Et donc, voilà, et je voulais mettre ça en même temps avec cette vision un petit peu... faussement féminine d'une société actuelle où on nous vend des valeurs, encore j'insiste, hein, pseudo-féminine ou pseudo du féminin, on va dire, qui sont celles de la prudence, de l'assurance, voilà, on a eu peut-être des valeurs faussement masculines dans les siècles passés, celles de la vérité, de la force, la puissance, ouais, qui nous a amenés au fascisme. Ouais. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'on fait tout.
Il y a un basculement qui se fait.
Dans cette espèce d'hyper-prudence, dans cette espèce d'hyper-paix, etc. Parce que maintenant, l'espace démocratique est devenu en fait l'écrin de l'espace libéral. Et il ne faut surtout pas faire de guerre pour consommer. Ou alors, il faut la faire, mais très loin de chez nous. Mmh. Voilà. Et c'est d'ailleurs le choc avec ce qui s'est passé dernièrement. C'est que quand la guerre arrive chez nous, on ne comprend plus rien.
Exactement.
On est désemparés.
Ouais, ouais.
Et c'est pas bon pour les affaires, la guerre. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on élargit le champ. Alors, pour élargir ce champ, il faut nous faire en sorte que voilà qu'on vive dans une sécurité. Et là, et on commence à avoir peur de perdre quelque chose.
Mais
en même temps, la sécurité permet de consommer. Donc, voilà, cette fausse valeur soi-disant féminine de voilà la mère qui protège les enfants. Hein. Et l'homme, avant, c'était l'homme qui partait à la guerre. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ça aussi que j'ai voulu dire, entre les lignes, bien sûr, parce que je l'affirme pas. Ça serait
directement,
trop pédagogique et pédant de le faire. Mais voilà, c'est l'idée aussi sous-jacente qui m'a fait écrire ce livre.
Et pour revenir à la frontière des genres, Joseph Cardona, je sais que vous aimez jouer avec. Vous n'avez pas peur du pastiche, vous l'avez démontré de belle manière à plusieurs reprises, que ce soit avec Lonely Betty ou Misty encore. Et là, on est clairement dans le fantastique. Alors ce choix, pour vous, est-ce que c'était un hommage au genre? Je pense à L'île du Docteur Moreau en particulier, et ou même, j'ai vu ça sur le net, mais c'est vrai, tout à fait vrai, des séries comme L'île fantastique ou Le Prisonnier, ou bien le choix du fantastique s'est imposé de lui-même pour servir justement la satire sociale dont vous parliez?
Alors, Lonely Betty ou Misty, surtout Lonely Betty, c'est un hommage... à la littérature populaire noire, au pulp,
à Stephen King aussi
également, mais en même temps dans Misty je profite aussi de glisser un hommage au roman policier hard-boiled américain, mais aussi de discourir sur la vie, la mort, et puis sur ces deux sœurs jumelles en fait qui demandent à cette détective d'enquêter sur je vais pas revenir sur ce livre là mais là non, dans Aller simple pour Nomad Island, non, c'est le sujet qui s'y prête. Puis c'est vrai aussi que j'essaie dans chacun de mes livres d'aborder le noir sous un prisme, sous un angle d'attaque différent. Trash Circus, on est dans le monde de la télé-réalité avec un personnage bien particulier, une sorte de parfait salaud dans Remington.
Oui,
plus dans le roman social, avec un personnage plus timide. Et voilà, en fonction des personnages aussi, l'écriture est une continuation aussi de l'histoire. Alors dans Remington, on a quelqu'un qui est très timide, donc on a une écriture plutôt tenue, quelqu'un qui un peu comme dans Taxi Driver, qui vit un peu dans son monde, et puis petit à petit la violence monte, etc. Dans Lonely Betty, c'est plus baroque, parce que ça se veut plus fleuri, etc. Donc, alors après, voilà, les références, c'est vrai qu'on peut imaginer Lost, on peut imaginer effectivement Le Prisonnier, etc. Mais j'étais vraiment dans l'idée plus de l'idée du survival, justement, le roman de la survie. Comment, en plus, c'est surtout venant du père, hein, des gens très éduqués, parce que le père va partir en guerre, finalement. Hein,
tout à fait,
ce que je disais avant. Mais sur ces gens très éduqués, socialisés, qui ont eu des grands, connus, à un moment donné, le père en parle, il a ses réunions, il a fait des grandes universités, il est toujours en costard et tout, puis à un moment donné, il se retrouve avec un fusil à harpon dans les mains et voilà.
Et il va en guerre,
oui. Il part en sauvage, voilà. Donc, il est, c'est ça l'idée. Alors, l'anticipation, après, elle vient parce que je me dis, tiens, c'est intéressant de peut-être d'aborder le roman noir aussi sous cet aspect-là. Et je suis aussi convaincu que la science-fiction ou l'anticipation, c'est un petit peu l'avenir de la littérature aussi. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes et qui se font là-dedans.
Oui, depuis longtemps en plus.
Voilà, mais qui encore, à mon avis, n'a pas complètement, aux yeux d'une certaine intelligentsia, si le polar maintenant commence à acquérir un petit peu ses lettres de noblesse, avec la science-fiction, il y a encore un pas à faire supplémentaire, j'ai l'impression. Mais voilà, j'ai voulu être vraiment à la frontière, justement, un petit peu comme si on pense à Twin Peaks, par exemple, on est toujours entre un réel et puis un aspect, justement, de l'autre côté du miroir. Et en plus, bon, dans Twin Peaks, c'est clairement affiché quand les types se voient. Mais là, voilà, c'était tout d'un coup le basculement, en ouvrant aussi des pistes un petit peu... Voilà, l'allégorie a appelé l'anticipation d'une certaine manière.
D'accord. Bah, très bien, Joséphin Cardona, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Il y en aurait eu encore beaucoup d'autres pour parler de ce livre qui vaut vraiment le détour et dont j'invite toutes les personnes à aller se le procurer. Merci beaucoup, Joséphin Cardona. À bientôt.
Merci à vous. Hein.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était À la frontière des genres avec Bibiomanu et son invité Joseph Incardona. Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on vient d'évoquer la bande dessinée qui s'appelle Little Tulip et qui est signée Charin et Book. Merci à Bruno qui a réalisé la technique de cette émission. Prenez bien soin de vous. À tout bientôt pour un nouveau Rock'n'Page.
Life. I've got life.